Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce Énerver la Suite France Inter Plus de Léonard de Vinci. Pour ce dernier épisode, changement d'optique. On a beaucoup parlé de l'artiste peintre, du sculpteur. Il est temps de revenir sur une autre dimension du personnage qui participe de sa science artistique, l'ingénieur et le scientifique. Car Léonard de Vinci a inventé des idées qui trouveront plus tard leur réalisation, l'avion, l'hélicoptère, le sous-marin et même jusqu'à l'automobile. Alors bien sûr, très peu de ses projets ont été réalisés de son vivant, mais certaines de ses plus petites inventions ont vu le jour et je pense à cette machine pour mesurer la limite élastique d'un câble qui va entrer dans le monde de la manufacture. Et comme scientifique, Léonard de Vinci aura apporté ses lumières dans les domaines de l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de l'hydrodynamique. Le 17 novembre 2011, dans son émission La Marche de l'Histoire, Jean Lebrun reçoit Pascal Briouat, professeur des universités à l'Université François Rabelais de Tours. Et le professeur revient sur la dimension scientifique et sur l'imagination de Léonard de Vinci, mais il va pointer aussi les limites et les erreurs du maître de la Renaissance. Plus de Léonard de Vinci, soirée Imagination au pouvoir sur France Inter.
Dites-moi Pascal Briouat, les premières années après 1452, date de sa naissance, ce ne sont pas celles d'un enfant qu'on prépare à la haute culture.
Malheureusement pour Léonard, il est fils illégitime et donc à ce titre ne peut fréquenter l'université. Il n'apprendra donc ni le latin ni le grec à l'école.
Il va faire un peu de latin plus tard.
Il en fera un tout petit peu, il fera des listes, on a des listes de vocabulaire latin dans le Codex Atlanticus. Mais de toute évidence, Léonard ne peut pas être cet humaniste qu'on cherche parfois à faire de lui.
Par exemple, les mathématiques, il les apprend à la BAC, c'est-à-dire il se prépare à des métiers de commerce peut-être.
Voilà, son père était notaire et il a voulu faire de lui un digne calculateur. Mais quand on dit une école d'abac, on dit un collège, en fait. Donc ce sont des savoirs très élémentaires.
C'est un observateur à la campagne. Il est disciple de l'expérience.
Oui, absolument. C'est ce regard particulier que Léonard porte sur les choses qui fait son originalité. C'est-à-dire qu'il sera capable, en passant par des intermédiaires qui vont lui traduire le savoir des universités, il sera capable d'appliquer ce savoir à son regard.
Après des années parfois difficiles à Florence, l'intellectuel, est-ce qu'il ne trouve pas, à partir de 1482, à Milan, un milieu, comment dire, plus pragmatique, Pascal Briouat, qu'il comprend mieux?
Mais je crois que Milan est un lieu d'intersection des savoirs. Il y a à la fois des condottieri et des militaires, il y a des spécialistes de mécanique que Léonard va employer, y compris des mécaniciens allemands. Il y a là aussi des maîtres des eaux, des maîtres des canaux, des médecins. C'est un monde extrêmement mixte.
Alors comme la peinture ne suffit pas à sa palette, il va multiplier les expériences. Vous parliez de l'œil dans sa peinture. L'idéal, ça serait de pouvoir multiplier les points de vue, peut-être de voir les choses du fond de la mer ou de voir les choses du haut du ciel.
Voici les plans.
Oh, de plus en plus compliqué, maître Léonard. 30 brasses de longueur. Mais comment pourra-t-il prendre son envol? C'est de la pure folie.
Tu apprêteras deux ressorts spéciaux à arbalète. Pendant le vol, le pilote rechargera à intervalles réguliers les ressorts qui, en se déchargeant, déploieront leur puissance sur les ailes.
Mais je ne serai jamais capable de les fondre. C'est d'une complexité effarante.
Écoute, au lieu de jaser comme une pie, nous disposerons d'une poussée de 800 livres.
Oh, 800 livres!
Vérifie encore une fois les commandes. Plie les ailes.
Les câbles glissent à merveille. Les ressorts sont chargés. Que Dieu me protège.
La catapulte est tendue. Agrippe-toi. Je lâche.
Oh oh.
Le sang chaud, il s'appelle Zoroastro. Le sang chaud de Léonard, c'est Henri Virlejeu. Et Léonard, comme on entend plusieurs fois, c'est Michel Bouquet.
Alors Zoroastro est effectivement un des artisans avec lesquels Léonard a travaillé à Milan. Il faut dire que ces machines volantes sont sans doute ce qu'il y a de plus original dans le travail de Léonard. Peu de gens avant lui se sont intéressés à la chose. Et ces machines sont d'une grande complexité et vont évoluer tout au long de la vie de Léonard. de machines mécaniques, comme celle dont il vient d'être question ici, jusqu'à des machines qui s'intéressent surtout au vol plané, finalement, et qui essayent de reproduire l'âme de l'oiseau en vol.
Mais à la différence de beaucoup d'autres machines, là, il y aura une postérité. Même s'il échoue, Clément Ader s'intéressera. Alors, lui, plus tard, aux machines de Léonard.
Oui, mais Clément Ader, c'est précisément quand on abandonne la piste léonardienne des ailes qui battent comme celles des oiseaux, des ornithoptères, c'est quand on abandonne cette piste que finalement on arrive à inventer l'avion. Donc Léonard n'a pas inventé l'avion.
Mais les erreurs peuvent être fertiles. Dites-moi, nous sommes toujours à Milan. Vous vous souvenez de l'hôpital Santa Maria Novella ?
Oui, l'hôpital Santa Maria Novella où Léonard a donc disséqué, dit-il, 30 cadavres.
Et vous, qu'est-ce que vous
faisiez ? Eh bien, moi, j'ai fait du judo dans la salle du réfectoire des moines et j'aimais à penser que les mains de Léonard étaient toujours là.
Je n'ai jamais vu un spectacle aussi répugnant. La poitrine est ouverte, les viscères mis à nu. Que cherchez-vous, maître Léonard ?
Il vous serait difficile de comprendre.
Je sais bien que vous êtes en quête de l'âme des trépassés. Vous espérez la trouver dans le cœur, au fond des entrailles. Vous vous leurrez. Après le trépas, l'âme s'envole. Votre art dégoûtant est inutile.
Je sais bien, ma mère, que l'âme échappe à nos sens. Mon travail est plus modeste, plus humble. De chaque organe, je cherche à définir l'usage, la fonction, l'utilité. J'essaie d'arriver à une plus profonde connaissance de la raison d'être des innombrables composantes du corps humain.
Il me serait difficile de vous suivre dans cette voie dangereuse, Sir Léonard. Toutefois, Madame la Prieure, je vous demande de réfléchir. Il s'agit de cadavres que nous aurions jetés dans la fosse commune. Des corps de manants, de malfaiteurs, de misérables, parfois destinés à être inhumés en terre non bénite. Et Maître Léonard donne à l'hôpital un ducat pour chaque dépouille.
Son impiété ne connaît pas de limite. Il assied même les os, comme s'il s'agissait de moutons ou de bœufs.
Cela est indispensable pour en connaître la constitution intérieure.
Mais pourquoi avoir coupé les muscles des bras et des jambes en lamelles ?
Pour localiser la distribution des nerfs à l'intérieur des fibres.
Regardez, monsieur l'archiâtre. Sur ce fourneau, il a arraché les yeux du cadavre. Il les fait bouillir dans l'eau. Cela tient de la sorcellerie.
Vous dépassez la mesure, Sir Léonard. Madame la Prieure, n'allez pas dans la pièce à côté. Je vous en supplie.
Refermons les portes sur les exploits qui peuvent se commettre à Santa Maria Novella. En anatomie, même s'il est audacieux dans ses méthodes, Léonard reste de son temps. Il cherche à localiser l'âme. Et je dirais même qu'il est du passé, parce qu'il cherche à vérifier les théories de l'Antiquité et du Moyen-Âge.
Il cherche à localiser les deux âmes, l'âme végétative et l'âme intellective, c'est-à-dire qu'il cherche à retrouver les théories d'Aristote. Il cherche aussi à retrouver l'anatomie de Galien, qui, on le sait, disséquait plutôt des animaux, des gorilles, que des hommes.
Alors si la prieure apprécie peu à Santa Maria Novella Léonard de Vinci, le duc qui règne à Milan, Ludovic Sforza, lui, donne peu à peu sa confiance, notamment parce qu'il est l'organisateur de ces fêtes qui sont autant de laboratoires pour ces effets spéciaux. C'est important, ça, les fêtes.
Oui, tout à fait. Léonard a passé une bonne partie de son temps milanais à organiser des fêtes pour le duc de Milan et pour San Severino. Des fêtes extraordinaires avec des mécanismes de levage, des montagnes qui s'ouvraient, Hadès qui sortait des enfers avec des effets pyrotechniques incroyables.
Et courtisan accompli dans ces fêtes, il joue aussi de différents instruments de musique qui peuvent même accompagner ses poèmes, car il lui arrive évidemment d'en composer.
Dans la salle d'apparat du château de la Porte Jovia, l'une des plus splendides forteresses d'Europe.
Sur le trône, Ludovic, seigneur de Milan, entouré de ses gentilshommes.
Devant lui, debout, Léonard joue du luth d'une façon admirable.
Nous ne connaissons pas les vers que son élève Atalante chantait sur la musique de l'étrange instrument.
Peut-être l'un des rares poèmes que Léonard avait composé et que nous avons retrouvé dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Turin.
Tels des papillons, attirés par la vaine apparence d'une lanterne et ignorant la véritable lumière, nous nous précipitons dans son feu qui nous brûle les ailes. Ô mortel misérable, poussé par l'aveugle ignorance à votre perte, ouvrez les yeux.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vinci, artiste total, avec Pascal Briouat qui publie une documentation photographique consacrée à Vinci et que nous recevons au moment où à la National Gallery à Londres et consacrée une exposition sur la période milanaise de Léonard. Le musicien d'ailleurs de Léonard est présenté, qu'on croyait être un portrait du duc.
Alors on le croyait, on n'y croit plus aujourd'hui. Mais il est vrai que lorsque Léonard est envoyé en ambassade à Milan pour sa première fois, il est porteur d'une tête de dragon en argent qui est aussi une lyre. Et lui-même est un artiste accompli qui est capable de jouer ce qu'on appelle des frottolets, c'est-à-dire des airs où il s'accompagne, des poèmes où il s'accompagne musicalement à la viola da gamba. L'ancêtre du violon.
On n'a pas retrouvé cet instrument. Non plus d'ailleurs que on ne retrouve de souvenirs physiques de la grande statue qu'il devait consacrer au duc à la fin de son séjour à Milan.
Tristement, cette statue cette statue équestre, le monument Sforza, n'a pas survécu d'une part aux ambitions militaires du duc de Ferrare qui a demandé au duc de Milan de lui rendre son bronze, et puis d'autre part au harcèlement des arbalétriers français qui ont détruit le joli moule.
Est-ce qu'il n'a pas trop d'idées d'ailleurs? Parce que il a toujours la tête ailleurs, lui dit le duc, il n'est jamais dans le champ.
Oui, il n'est jamais où on l'attend, et le Codex Atlanticus témoigne.
Qu'est-ce
pour
que
cette
c'est,
période.
Le Codex Atlanticus?
Alors c'est un volume très très important, d'où son nom de D'Atlanticus, portable par un Atlante. C'est un volume où Léonard couche toutes ses idées pendant la période milanaise. Et toutes ces idées, c'est à la fois de la mécanique, de l'ingénierie, des questions de guerre, des pages de latin, de vocabulaire latin, de l'anatomie, et puis finalement aussi un petit peu de peinture. Mais c'est un des intérêts de Léonard.
Mais il a laissé des milliers et des milliers de feuillets.
Oui, plusieurs dizaines de milliers de feuillets, effectivement.
Alors qu'à partir de 1500, la fortune tournant pour le duc Ludovic, qui va se retrouver en prison en France, à Loches, après l'invasion des troupes françaises, il lui faut, à lui, Léonard, faire la liste de ce qu'il emporte, et commence des années d'errance.
Oui, des années d'errance, mais en même temps, d'errance tout à fait intéressante pour lui, parce qu'il devient ce qu'il ambitionnait de devenir, un ingénieur militaire.
Mais attendez, il est obligé de se mettre au service des uns et des autres, la duchesse d'Este lui demande quasiment de s'occuper de ses chiens.
Oui, alors Isabelle d'Este n'aura pas tellement l'agrément de Léonard de Vinci, qui très vite va s'enfuir de chez elle. En revanche, c'est le service de César Borgia qu'on oublie un petit peu trop.
Alors c'est le fils du pape. Il tente de construire un état un peu fort en Italie centrale.
Oui, une sorte d'état tampon que les Français veulent voir apparaître en Italie centrale entre les états du pape et l'Empire.
Et alors, il lui demande de s'occuper de la guerre.
Oui, Léonard construit des machines, des tours d'assaut, il est spécialiste de l'artillerie, spécialiste des fortifications, il va inspecter par exemple Piombino pour César Borgia, et il a inventé énormément de techniques de fortification modernes, et il est l'un des suspects possibles de l'invention du bastion, c'est-à-dire la fortification moderne que nous dirions à la Vauban.
Mais pour un homme qui tout à l'heure à Santa Maria Novella disait qu'il s'occupait des morts, en anatomie, pour sauver les vivants. Voilà qu'il fait des vivants des morts.
Oui, alors il y a une contradiction terrible chez Léonard, contradiction non résolue. Et je pense que l'expérience qu'il fait de la guerre est une expérience traumatique. Mais il n'en reste pas moins que être un ingénieur militaire, socialement, c'est une réussite extraordinaire. Et puis Léonard est un homme de guerre.
Et historiquement, vous pourriez dire, Pascal Briouat, que ces techniques militaires ont été transférées dans le civil.
Oui.
Et ça justifierait son rôle.
Alors, certaines techniques, par exemple des techniques de trébucher, vont lui permettre d'inventer une machine qui est à l'origine d'une pompe à double secteur. C'est un petit peu compliqué de l'expliquer, mais disons que c'est la machine qui est l'ancêtre de la machine de Newcomen et en fait de toutes nos pompes modernes de notre monde industriel.
Alors nous voilà dans l'hydraulique. L'étonnant projet dont on va entendre la description, c'est encore un projet militaire, puisque Léonard propose à Florence, et à Florence à Machiavel, semble-t-il, d'assécher le port de la ville concurrente, Pise, et de transformer les environs de Pise en marécages impraticables.
Il s'agit donc de dérouter la majeure partie du cours d'une rivière et d'abandonner l'ancien lit de l'Arno tel que la nature l'a formé en le remplaçant par un grand canal navigable. Une redoutable entreprise, Sir Léonard.
Voici la carte. On quittera le lit du fleuve en aval immédiat de Florence.
Je vous arrête. Mes ingénieurs prétendent qu'un obstacle infranchissable se dresse contre votre tracé, les gorges de Montelupo.
Et je connais parfaitement ce pays, monsieur le secrétaire. J'y ai passé mon enfance. Je sais bien que la nature du rocher rendrait le coup du percement prohibitif. D'autre part, il est indispensable d'assurer à la nouvelle rivière un débit constant et d'offrir aux bateaux qui la parcourront un tirant d'eau uniforme. J'ai prévu de creuser un bassin collecteur dans la vallée de la Chiane.
Mes ingénieurs se demandent comment vous pourrez assurer un débit uniforme malgré la sécheresse de la saison chaude.
Je construirai près d'Arezzo des barrages réservoirs destinés à se remplir en hiver et qui restitueront leurs eaux en été par un système d'écluses, de portereaux et de sas.
On nous objectera que le coût est gigantesque. Je le répartirai sur 10 ans. Que Dieu nous donne 10 ans de paix et de vie.
C'est le dernier écho du feuilleton d'Isabelle Lemaitre, 1987, avec Michel Bouquet. Dites-moi, il n'y a pas eu de témoignage direct d'une conversation?
Non, pas de témoignage direct, et pourtant, Patrick Boucheron a écrit un livre merveilleux sur ce moment non documenté. Mais on est certain que Léonard a participé aux affaires militaires de Florence à ce moment-là, et le secrétaire de la chancellerie de Florence était bien Machiavel.
Mais Patrick Boucheron dit aussi qu'en général, les inventions techniques de Vinci, et en particulier celle-ci, ça débouche sur un fiasco.
Alors oui, il n'a pas eu de chance. Alors, cette idée de Léonard qui ne finit jamais rien, ça vient aussi, c'est aussi dans le mythe vasarien. Hein. C'est Vasari qui s'en explique. Je dirais qu'il n'a vraiment pas eu de chance parce que ces grandes machines, il avait construit des excavatrices géantes, permettant justement de conduire le cadal. Il avait pensé aussi la systématisation du travail des ouvriers pour ce canal. La machine géante a été détruite par une tempête.
Again, time to be brave. Continue. But she's a visitor, and we have to know that faith declines. I'm not out of the way.
Faith, le son folk du groupe américain Bon Iver sur France Inter. Alors, retour du côté de Léonard de Vinci et portrait de l'artiste en scientifique et ingénieur. C'est ce que va mettre en avant Daniel Arras, historien d'art et spécialiste de la Renaissance, au micro de Denis Chessou le 25 juillet 2002, dans « Tout s'explique, le génie de l'ingénieur ».
Léonard de Vinci, avant tout peintre ou scientifique, les deux...
Indissociablement les deux. Ah. Indissociablement les deux. La peinture, pour lui, est une science. Et je dirais que la science, pour lui, est aussi un art. Donc d'accord. Je crois que c'est absolument indissociable. Et bien sûr, en fonction des critères scientifiques de l'époque. C'est-à-dire que Léonard est un savant de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Jugé à l'aune de la révolution scientifique ou de Newton, c'est bien faible. Mais à l'aune de la science de la Renaissance,
Léonard
est un des grands savants.
Quel était l'état des sciences, justement, à cette période-là, au XVe siècle?
Ben, si vous voulez, on a longtemps pensé que la Renaissance était un moment de déclin de la science entre les spéculations scientifiques du Moyen-Âge et puis la révolution scientifique galiléenne. En fait, on sait maintenant que la Renaissance n'est pas du tout une période de décadence scientifique. Au contraire, la Renaissance est un moment d'apogée, ou en tout cas de renouvellement profond des sciences de la nature, c'est-à-dire des sciences descriptives. Et c'est un des grands apports de la Renaissance qu'une nouvelle nomenclature descriptive de la nature, une encyclopédie descriptive de la nature. Et là, bien sûr, les artistes jouent un rôle essentiel, puisque eux peuvent dessiner les plantes, peuvent dessiner les animaux, peuvent dessiner les nerfs, les muscles, etc. Et donc Léonard est un des grands représentants de ces artistes savants de la Renaissance. Il n'est pas le seul, n'est pas le seul, mais il est sans doute le plus grand représentant des artistes savants, dans la mesure où chez lui, le travail de l'artiste savant ne s'arrête pas à la demande du commanditaire « dessine-moi tel muscle, tel corps », mais il le fait pour lui-même, sans commande, et ensuite, dessinant, il s'interroge sur ce qu'il voit, et il prépare un traité. Il imagine un traité de l'anatomie, un traité de la botanique, un traité des fossiles. C'est-à-dire que c'est cette curiosité qui revient tout le temps, et qui l'amène à aller plus loin que ses collègues contemporains et amis, dont Francesco Di Giorgio, par exemple, dans la volonté de saisir la variété infinie de la nature. Et là, en ce sens, c'est un grand savant de la Renaissance.
Et par rapport au monde, à l'univers, on était dans un monde fermé à cette époque-là?
Oui, alors, on est absolument, c'est le fameux livre d'Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini. Le XVe siècle, on est encore dans un monde clos. On est toujours dans un monde, dans un cosmos, on va dire, aristotélicien. C'est-à-dire que c'est une sphère, et puis au-delà, il n'y a rien, il n'y a pas de vide.
D'accord.
Il n'y a rien. C'est au cours du XVIe siècle que ce monde clos va s'ouvrir progressivement.
Il faut que Galilée passe par là aussi.
Et Copernic, ouais, et beaucoup d'autres, et d'autres moins connus, parce que déjà à la fin du XVe siècle, on a l'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le soleil serait au centre et non pas la Terre. On a l'idée, et dans tous les manuscrits de Léonard de Vinci, une fois, il y a cette phrase, le soleil ne bouge pas, il sole non si muove, ce qui serait évidemment une intuition extraordinaire, avant Copernic, avant tous les autres, la révolution copernicienne, Léonard l'aurait faite. Hélas non, c'est juste une observation qu'il a prise quelque part, qui en était, mais ça ne l'intéressait pas parce que ce qui l'intéressait, c'était le phénomène observable. Or, ce qu'on observe, c'est que le soleil bouge.
Oui.
Et donc, dire le soleil ne bouge pas, c'est là la limite aussi de la science de Léonard. Il se fondait énormément sur l'expérience.
Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que cet homme-là était aussi un autodidacte à la base.
Ah ben, je crois que c'est absolument fondamental dans la position historique et intellectuelle de Léonard. Parce que vous avez dit tout à l'heure, une enfance heureuse à la campagne, oui, on peut le supposer, une éducation avec du latin élémentaire, le premier niveau de latin, le tout premier niveau de latin, mais ensuite il arrête, semble-t-il, vers 8-9 ans, et vers 11 ans, il passe à l'autre possibilité, qui est celle de devenir un artisan. Bien, il a une formation, il n'a pas le cursus universitaire qui l'aurait permis d'apprendre le latin, qui à ce moment-là, et la langue scientifique, là, tous les traités scientifiques sont en latin, donc il ne peut pas lire bien ce latin, alors on le lui explique. On sait par exemple qu'il a demandé à Luca Pacioli de lui expliquer la géométrie d'Euclide. Mais donc c'est un savoir par transmission
orale. C'est un mathématicien, je crois, cet homme.
Voilà, Luca Pacioli est le grand mathématicien en Italie de la fin du 15e siècle. Léonard sent que les mathématiques sont nécessaires comme base de savoir. Il ne peut pas bien lire Euclide, il se trompe. Il a fait un dictionnaire de latin pour lui-même. Oui, bon. Et il essaye d'arranger ce manque de structure de savoir. Mais en fait, il n'y arrive pas. Et alors, le fait qu'il soit autodidacte est à double tranchant. D'un côté, ça l'empêche d'avoir la structure mentale organisée, qui est celle de la science contemporaine et des grands savoirs contemporains. Bon, il bricole, hein, c'est un bricoleur de génie, c'est un bricoleur scientifique. Bon. Mais ça a un grand avantage, le fait de ne pas avoir cette structure mentale de la scolastique, c'est qu'il est libre. Il est libre, et donc il peut inventer, il peut tenter des hypothèses, il peut se tromper, mais il peut aussi ne pas se tromper. Cette liberté, j'appelle ça une science à l'état sauvage. Hein, c'est une science sauvage. C'est une curiosité, et avec des instruments qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien, ben on tente de le remplacer, je parle d'instruments intellectuels, et il a une conception, une pratique sauvage de la science.
Donc ne canalisons pas trop les esprits, hein, c'est un petit peu ça.
Absolument, absolument. Ben lui, alors il était tout sauf canalisé, parce que s'il ouvrait un canal, il y avait tout de suite un embranchement, il partait sur autre chose. Tous les traités sur l'eau, par exemple, de Léonard de Vinci, commencent par les traités projetés, hein, il n'a jamais réalisé de traités sur l'eau. Tous les débuts de traités sur l'eau commencent par définition du point, de la ligne et de la surface. On a depuis un peu mieux percé la méthode. L'absence de méthode de travail de Léonard, ou du moins cette méthode par... est-ce que c'est une méthode ? C'est le bricolage, hein, et l'association d'idées.
Il y a un mot important, c'est le mot analogie.
Voilà, absolument. C'est que ce qui inspire la recherche de Léonard de Vinci, et pas seulement la sienne, mais celle de l'époque. Hein. L'époque pense en termes d'analogie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que depuis Platon, ça remonte loin, depuis le Timée de Platon, il y a une analogie entre le macrocosme, c'est-à-dire le cosmos, et le microcosme, le corps humain, l'homme. Et il y a une analogie de structure et de fonctionnement. Si bien que les étoiles influent sur le corps, mais sur certaines parties du corps, etc. Et ça, tout cela est assez connu. L'astrologie, est une des sciences, hein, fonctionne aussi dans le principe de l'analogie. Et cette analogie, c'est une méthode à la fois poétique de description de la Terre. Par exemple, je crois que c'est Ovide qui dit que la mer, c'est la sueur de la Terre. Bon, c'est une description poétique. Il y a aussi l'analogie descriptive qui permet de clarifier, par exemple, la différence entre un pied d'ours et un pied d'homme. Alors, on les met côte à côte, on voit l'analogie, on voit la différence. Alors, on passe à ce moment à l'analogie négative, hein, à la fois ressemblance et différence. Et tout ça, c'est la pratique de l'époque. Là où Léonard apporte quelque chose, et là, on peut dire une méthode, mais c'est très progressif, on le voit passer progressivement à cette nouvelle conception d'analogie, c'est qu'il ne s'agit moins de décrire les ressemblances entre les choses, qui est la grande pensée de la Renaissance, hein, c'est ce que Foucault a dit, le savoir des similitudes, le savoir des ressemblances, moins donc de décrire les ressemblances que de trouver comment les différents phénomènes, des phénomènes tout à fait différents, sont liés, sont corrélés à partir de lois physiques équivalentes. C'est-à-dire que l'analogie, elle se déplace de la description, on va dire superficielle des éléments, à la compréhension de l'analogie dans la loi qui explique le phénomène.
Alors, c'est à quoi si on prend un exemple.
Eh bien, par exemple, c'est cette formule que j'aime beaucoup. Hein, il y en a énormément qu'on pourrait citer chez Léonard. Mais quand il écrit « L'oiseau est un instrument opérant par loi mathématique ». C'est magnifique. C'est d'abord d'une poésie.
L'oiseau est un instrument
opérant par loi mathématique. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Hein, comment imaginez-nous qu'un pigeon, hein, parisien opère par loi mathématique ? Bien, ça veut dire que la façon dont l'oiseau se déplace en vol, le vol de l'oiseau et la façon dont l'oiseau utilise la résistance de l'air pour avancer, pour monter ou pour descendre, obéit à des lois mathématiques équivalentes à celles de la force de résistance dans le fluide, la mécanique des liquides, etc. C'est-à-dire que Léonard de Vinci est persuadé, et il n'a pas entièrement tort, qu'il y a une équivalence de principe dynamique, hein, entre les mouvements dans l'air et les mouvements dans l'eau. Et donc, l'oiseau est un instrument opérant par loi mathématique.
Et alors, cet homme-là, évidemment, aimait beaucoup l'air parce que lorsqu'il a inventé ces superbes machines, il y en a une dont on peut peut-être parler tout de suite, qui porte le doux nom de c'est pas Oroptère, c'est l'ornithoptère.
Oui, c'est un nom qu'on lui a donné.
C'est pas lui qui l'a...
Non, c'est la machine volante. Ben, si vous voulez, alors là, c'est très intéressant, parce que Léonard de Vinci n'est pas le premier à penser à une machine volante. On a des dessins d'ingénieurs siennois du 15e siècle qui représentent des hommes avec des parachutes. Hein. Bon, donc l'idée du parachute existait déjà, Léonard l'a reprise. Bon, heureusement, ils n'ont pas fait fonctionner leur parachute parce qu'il y a eu des accidents. Bon, mais ils avaient bien l'idée, hein, du parachute. L'idée d'une machine volante, bon, elle est très ancienne, puisque la légende d'Alexandre, Alexandre le Grand, suppose qu'Alexandre, à la fois, est allé au fond des mers dans sous-marin et s'est élevé au sommet des airs grâce à des machines volantes. Donc c'est un des plus vieux mythes de l'humanité, Icare, etc.
Mais quand même, il invente un peu le principe de l'hélicoptère avec une vis, non?
Il a aussi le principe de l'hélicoptère. Ce qui est très intéressant, c'est que il veut réaliser ce rêve. Il pense qu'il est possible. Il pense que l'homme peut voler. Et dans un premier temps, il suppose que l'homme pourra voler en utilisant la force de ses bras et en transformant les bras en ailes. C'est le principe d'Icare, plus ou moins. Et puis, il se rend compte que ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, il imagine un homme, dans le fond, allongé dans une machine et actionnant des ailes avec les pieds. Ouais. C'est le principe du pédalo. Disons que l'originalité de Léonard, c'est pas tellement d'avoir songé à la machine volante que d'avoir poussé les recherches aussi loin qu'il le pouvait, mais en même temps avec une très grande prudence, parce qu'il n'a jamais finalement construit sa machine volante. Et un des textes où il parle qu'on va l'essayer, ou comment l'essayer le jour où je l'essaierai, je l'essaierai au-dessus d'un lac. Il est prévu que celui qui sera en train de pédaler dans sa machine, il aura deux grosses outres de vessie de porc remplies d'air au cas où il tomberait. Donc Léonard se doutait que sa machine ne pourrait pas marcher. En fait, elle n'a jamais été essayée. Mais il y a des dessins où on voit comment il faudrait faire pour l'essayer. Il y a tout un dans la méthode de Léonard. Pour revenir à la question initiale, dans la méthode de Léonard, il y a beaucoup. Il faut faire attention dans ces textes parce qu'il y a des textes qui décrivent des expériences réelles. Des textes qui décrivent des expériences imaginaires. Et c'est ce qu'on appelle, en langage scientifique, l'hypothèse mentale. Ou l'expérience, c'est l'expérience mentale. Oui. Une expérience qu'on ne peut pas réaliser étant dans les conditions concrètes de la science et technique, mais qui mériterait d'être réalisée. Et toute une part de ce qu'on a pris au 19e siècle pour des expériences géniales de Léonard est en fait des hypothèses d'expérience qu'on pourra réaliser des années plus tard, des siècles plus tard.
C'est quand même un homme qui est précurseur dans pas mal de domaines, parce que donc il a touché, on va dire ça dans le désordre, à la botanique, à l'optique, à la géologie, à l'astronomie, à l'acoustique. J'ai noté l'anatomie aussi, on pourrait y revenir. Vous avez des manuscrits donc qui abondent en observations, en hypothèses diverses, et qui précèdent parfois de plusieurs siècles la découverte proprement scientifique correspondante.
Absolument. Alors, le domaine où vraiment Léonard, on peut dire, est un grand précurseur, d'autant plus précurseur que ça n'a jamais été publié, donc il ne pouvait avoir aucun impact sur l'histoire des sciences, puisque ses dessins n'étaient pas publiés. Donc c'est des dessins qui n'ont pas été diffusés dans les milieux scientifiques comme ils auraient pu l'être. Mais c'est vraiment l'anatomie. Là, c'est dans l'anatomie que, l'anatomie humaine, que Léonard est un génie. Mais alors, en quoi consiste le génie anatomiste de Léonard? Bien, c'est d'abord dans la capacité d'observer, c'est-à-dire pas seulement de voir, mais de regarder. Et en regardant, de voir, d'observer, et ensuite de transcrire graphiquement, c'est-à-dire par le dessin, ce qu'il a vu. Et alors, les dessins anatomiques de Léonard sont d'abord d'une beauté extrême. Il est le premier grand dessinateur anatomiste. Il y en aura d'autres au XVIe siècle. Vézal, La fabrique du corps humain, le grand livre qui révolutionne l'anatomie, c'est 1541. Vézal, avec des gravures faites à partir de dessins de Titien. Donc l'artiste, il y a toujours la relation entre artiste et savant, surtout dans le domaine de l'anatomie, où les artistes faisaient l'anatomie, on leur conseillait même de faire l'anatomie superficielle pour savoir peindre les muscles. Mais la différence de Léonard de Vinci, c'est qu'il ne se contente pas d'anatomie superficielle, comme l'a fait aussi Michel-Ange. Michel-Ange a fait l'anatomie superficielle, juste des muscles et de la peau. Il va plus loin et il se passionne pour la machine du corps humain. Et je veux seulement vous lire le commentaire qu'a fait aujourd'hui un anatomiste moderne devant un des dessins de Léonard qui représente les vaisseaux de la poitrine. Je vous lis ce texte parce que je le trouve d'une force presque comique mais irrésistible. Et surtout, ce texte nous montre que nous ne savons pas voir, même dans les dessins de Léonard de Vinci, ce que lui a vu et ce qu'il a su dessiner. Donc, voici ce que dit l'anatomiste moderne. Parmi les veines dessinées par Léonard, on remarque la veine thoracique latérale, un petit plexus mammaire, l'anastomose thoraco-épigastrique, des branches perforantes tributaires des veines thoraciques internes, la veine épigastrique inférieure superficielle et peut-être la circonflexe iliaque superficielle. On note un vague tracé rappelant la terminaison de la veine saphène interne. C'est probablement la première dissection exacte de ce vaisseau. Alors, je voulais vous lire ce texte parce que quand on voit le dessin de Léonard, d'abord le texte a une force extraordinaire dans son vocabulaire même, mais quand on voit le dessin de Léonard, on dit tiens, c'est un beau dessin anatomique. Mais on ne se rend pas compte, dans notre ignorance profane, du caractère révolutionnaire de ce dessin qui fait qu'aujourd'hui, un anatomiste reconnaît exactement les veines.
Et le professionnel d'aujourd'hui se dit c'est quand même pas vraiment trompé.
Et il dit, même c'est Ron Philo, dans le grand catalogue sur les dessins anatomiques de Léonard, dit qu'aujourd'hui, on pourrait donner certains dessins de Léonard aux étudiants d'anatomie contemporains. Ils sont tout à fait valables. Pas tous. Alors c'est là que c'est passionnant, parce que certains sont géniaux, d'exactitude, d'autres sont géniaux de fausseté. Mais ça, on pourrait y revenir tout à l'heure, parce que dans cette science, quand il ne comprend pas ou quand il ne peut pas observer, il substitue l'analogie. Et il met un fœtus, admirablement observé, humain, dans un placenta de vache. Voilà.
Ah oui.
Ouais, ben, c'est pourtant pas observable, hein. Bon. Mais puisque la vache et la femme sont des mammifères, et que puisque dans le système analogique, tous les mammifères ont les mêmes muscles.
Dans son esprit, ça peut coller.
Ça peut coller. Aucun D'accord. problème. Bon. Et c'est le premier des...
Parlez-nous, s'il vous plaît, quand même, de ces fameuses machines, parce que ça, c'était aussi la gloire de Léonard de Vinci, donc toutes ces machines qu'il a écrites, qu'il a dessinées sur ses carnets, ses croquis.
Alors, je vais vous décevoir. Les machines Léonard sont venues en participe de sa gloire, absolument. C'est un inventeur de machines géniales. Mais il n'est ni le premier, ni le seul.
Eh bien, au revoir, monsieur. Merci à vous.
C'est-à-dire qu'un des ingénieurs de la Renaissance, les fameux ingénieurs de la Renaissance, c'était des fabricants de machines. Hein, la Renaissance, c'est le siècle, enfin, le 15e siècle, c'est le siècle des ingénieurs. Alors, on connaît très bien Léonard de Vinci, on connaît moins Francesco di Giorgio, on connaît pas du tout Giovanni Taccola, le siennois.
Je n'ai jamais été présenté.
Voilà. Or, ce sont tous de grands ingénieurs, de grands fabricants de machines. Ce qu'on peut dire, alors, comment se fait-il? Pourquoi ces machines? Pourquoi Léonard, peintre, scientifique, fait-il des machines? Parce que c'est un ingénieur. Un ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire au XVe siècle? C'est pas comme aujourd'hui. Un ingénieur au XVe siècle, c'est un homme capable de fabriquer des instruments permettant au prince de mener une vie civile ou une vie militaire satisfaisante. C'est-à-dire de gagner des batailles et de faire des fêtes agréables.
Bon. D'accord.
C'est ça la double fonction de l'ingénieur.
Donc il est à la fois organisateur de fêtes et presque organisateur de guerre.
Enfin, absolument, voilà. Absolument. Dans les machines de Léonard, il y a trois types de... Alors à nouveau, Léonard se distingue des autres parce qu'il y a les deux types de machines que font tous les ingénieurs, machines de guerre et machines de divertissement, machines théâtrales, on pourra en parler, c'est un inventeur génial de décors de théâtre, Léonard. Et on a réussi à reconstituer un de ces décors. Bon, donc machines de guerre ou des inventions féroces, lui qui libérait les oiseaux parce qu'il souffrait de les voir en cage, oui. Il invente des machines pour couper les jambes des combattants, absolument extraordinaire.
Un char muni de faux dans votre ouvrage, enfin,
c'est effrayant. Oui. C'est effrayant, mais c'était inutilisable parce que comment le char risquait de se refermer sur les propres militaires du camp. Donc
c'est embêtant,
c'était une rêverie. C'était à nouveau je vous disais tout à l'heure une expérience mentale. Et si on faisait ça, bon, donc il fait ces machines militaires et civiles de fête. Il les fait comme les autres. Il a fait des automates, par exemple, admirables, pour faire des surprises au cours d'une fête de la cour à Milan ou également pour François Ier. Bon, mais là où Léonard est un peu spécial par rapport à ses contemporains ingénieurs, c'est qu'il pousse l'idée de la machinerie beaucoup plus loin, parce que, comme esprit systématique, l'ingénieur est un homme de l'engrenage. Hein, ce qui intéresse, c'est les engrenages.
Les rouages des engrenages.
Les rouages des engrenages, la transmission des forces, etc. Bon, il dit, la mécanique est le paradis des mathématiques, de la science mathématique. Hein. Bon, là, c'est très fort aussi comme position. Eh bien, il pousse plus loin et il réfléchit à faire des machines un peu pour n'importe quoi. Alors, par exemple, il a imaginé, une machine servant à fabriquer des épingles. C'est quand même extraordinaire.
Bon. Oui.
Et ces épingles, parce qu'il faut bien fabriquer des épingles. Et c'est compliqué à l'époque de fabriquer des épingles, qu'elles soient bien régulières, la même forme, qu'elles soient solides, bien pointues, etc. Donc il imagine une machine très complexe qui permettrait...
C'est pas une commande, ça, c'est lui. Seul, il sait, bah tiens, on pourrait...
Oui, mais à ce moment-là, il imagine la machine, il fait tous les dessins qu'il faut pour la machine, des très beaux dessins. Il faut faire attention aux dessins de Léonard de Vinci, parce qu'ils sont tellement beaux qu'ils sont convaincants.
Oui.
On y croit.
Oui.
Alors qu'en fait, c'était irréalisable.
On se fait avoir.
Oui, quand les gens ont reconstitué les machines à Léonard de Vinci, ils ont complété ce qu'il n'y avait pas dans les dessins, parce que la plupart ne sont pas constructibles. D'accord. Elles ont l'air. C'est la rhétorique du dessin. Elles ont l'air constructibles, mais en fait, elles ne le sont pas du tout. Et quand on les construit, les trois quarts, on complète le dessin.
Alors, donc là que l'artiste prend le pas sur l'ingénieur. Enfin, je sais pas.
L'imaginaire.
Et oui.
L'imaginaire. C'est-à-dire qu'un ingénieur est plein d'imagination, mais le problème de l'ingénieur, c'est quand même que son imagination soit utile au prince.
Bien sûr.
Alors que pour Léonard, on lui reprochait de concevoir beaucoup de choses, mais de peu réaliser. Et c'est vrai qu'il concevait des choses tellement extraordinaire que c'était irréalisable. Pour ces machines, je termine la machine avec les épingles, un point extraordinaire, c'est qu'il ne demande pas d'inventer la machine, il dit, et ça serait une excellente opération financière. Parce qu'avec cette machine, on fabriquerait tant d'épingles à la minute, tant à l'heure et tant par jour, ce que ne ferait pas 600 ouvriers, etc. Et on gagnerait le salaire des ouvriers.
C'est la naissance du taylorisme sans le savoir.
Absolument, mais je crois que dès qu'on devient machiniste, dès qu'on est machiniste, on est tayloriste.
Oui. Alors Daniel Arras, il y a aussi, puisque là nous sommes quand même en fin de Tour de France, la bicyclette de Léonard de Vinci, à l'époque où le cheval triomphe. C'est quoi? C'est un gag? C'est vrai? C'est pas vrai, la fameuse bicyclette de Léonard?
Alors c'est compliqué. Je suis de ceux qui pensent que c'est un dessin absolument authentique, pas forcément de Léonard de Vinci, mais l'idée est tellement géniale qu'elle est de lui, ça peut être d'un élève, mais parce que le dessin est très maladroit, ils ne sont pas de Léonard, mais c'est Léonard qui avait dû faire un dessin ou en parler, et un élève l'a transcrit. Je crois que c'est authentique étant donné les conditions de découverte de ce dessin, etc. Bon. Et alors, ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est qu'on voit deux roues, un guidon, une selle, et surtout, qui est la véritable invention de la bicyclette, la chaîne. La chaîne reliant la roue arrière à un pédalier.
C'est là, oui.
Voilà. Et c'est là que se trouve l'invention de la bicyclette. Bon. Et il n'y a aucun doute, Léonard a eu cette idée, on pourrait, avec deux roues et une chaîne, faire avancer un homme sur une bicyclette. Mais il n'est pas allé plus loin. Et je crois, comment en a-t-on la preuve? Parce que la chaîne en question ne peut pas fonctionner pour des raisons techniques. Et la chaîne est faite de crans rectangulaires et vous savez, vous qui êtes un grand cycliste, que la chaîne doit absolument avoir des crans au contraire triangulaires pour pouvoir tourner hein, autour des deux pignons. Là, ils sont rectangulaires, donc ça bloquerait immédiatement. Mais il n'y a pas pensé, pourtant ils s'y connaissaient en engrenage. Mais la deuxième raison pour laquelle la machine bicyclette est inimaginable, c'est qui se serait servi d'une bicyclette vers 1492 d'une galère pour aller en Amérique, oui, mais d'une bicyclette pour circuler à Milan.
Copie Bartolis, on est un petit peu après.
Oui, un petit peu après quand même. Ouais. Mais on ne voit pas le prince se promenant en bicyclette. Non, parce qu'il risque de recevoir... Ben, bien sûr, le prince est à cheval, et ça va beaucoup plus vite un cheval qu'une bicyclette.
D'accord. Oui.
Ensuite, les routes. Faire la bicyclette sur les routes du 15e siècle en Italie, ça aurait été plutôt pénible. Sauf qu'on n'avait pas de pneus à air, ça aurait été des roues en bois. Donc c'était une pure idée, et qu'il aura fallu, alors là, combien de siècles, du 15e au 19e, 4 siècles, hein, pour finalement réaliser. Mais parce qu'une invention, pour qu'elle soit faite, il faut que la société soit prête à l'accepter, servir.
Et puis aussi, Daniel Arras, c'est un passionné de la création d'énergie, ça c'est important. L'énergie à l'époque, c'est bien sûr le vent, l'eau, force animale et force humaine. C'est un homme qui a imaginé détourner le cours de l'Arnaud.
Oui, alors sinon création d'énergie, parce que ça, il n'en est pas encore là, c'est l'exploitation de l'énergie. C'est-à-dire, effectivement, l'ingénieur, en tant qu'au service du prince ou de la République, se doit de savoir exploiter au mieux les quatre énergies que vous avez citées, c'est-à-dire l'air, le vent, hein, l'eau, la force humaine, oui, la force animale, il y en a trois.
Force animale,
la force animale, soit le cheval, la vache ou l'homme. Et là, Léonard, très franchement, n'a rien d'exceptionnel par rapport à ses contemporains. Francesco Di Giorgio qui a fait des machines tout à fait... Moi j'adore aussi Francesco Di Giorgio, le siennois, qui était un ami de Léonard, ils se connaissaient très bien tous les deux, et Francesco, seulement lui, il réalisait, il se contentait pas de rêver, hein, de faire des hypothèses mentales, des expériences mentales, il faisait concrètement. Alors seulement, Léonard, disons, va peut-être plus loin que les autres, en ce sens qu'il est persuadé que, dans le fond, il n'y a pas de limite physique hein, à la possibilité d'exploitation des énergies physiques. Et donc, il est possible, effectivement, de détourner le cours de l'Arnaud. Alors, pourquoi détourner le cours de l'Arnaud? Bon, en fait, pour embêter Pise. Mais ça, c'est une affaire politique.
Qui était l'ennemi de Florence.
L'ennemi de Florence, à ce moment-là, qui est au bord de la mer. Donc, on va priver Pise de l'Arnaud. C'était pas sympathique, mais c'était pas l'idée de Léonard. Hein. C'était l'idée de la République de Florence, qui y pensait depuis longtemps.
Et pour un certain Machiavel aussi, qui était derrière?
Oui, vous avez raison. Effectivement, c'est en même temps. Vous avez tout à fait raison. Moi, il y a un moment où Léonard, Machiavel et César Borgia ont passé une semaine ensemble à Imola. J'aurais aimé être là. Vous le dire. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bon, il a fait un nombre de dessins, d'études. C'était possible d'étudier une cour de l'Arnaud avec un système d'écluses, des tunnels sous le Serravalle, etc. Tout ça a été possible. Et tellement possible que, quand on regarde le tracé fait par Léonard pour détourner le cours de l'Arnaud, on obtient le tracé de l'autoroute aujourd'hui qui va de Florence à la mer.
Bon.
Donc, il avait trouvé le parcours le plus simple, le plus direct.
C'était le dernier épisode du NRV France Inter Plus de Léonard de Vinci à l'occasion du 5e centenaire de sa disparition, une surexposition sur France Inter. La semaine prochaine, cinéma, une série de masterclass. John Carpenter, Alain Delon, John Travolta, Sylvester Stallone, ce sera pour l'affiche. Cette semaine à la réalisation Stéphane Combe, préparation Virginie Rouzig, Hervé Evano de Lina et à la technique Julien Dumont. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Et le bon week-end, alors.